Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Seul représentant de l'émission dans ce studio avec moi aujourd'hui, mais les autres ont déjà enregistré leur chronique, notamment Marine qui nous parlera de Babysitter, et puis de Manu qui nous parlera de Anatomy of Time. Quant à toi, tu fais un petit retour dans le passé.
C'est ça, je vais vous parler de Ogre de Arnaud Malherbe.
Film sorti le 20 avril, et puis moi je vous parlerai de Varsovie 83, une affaire d'État. Puis nous allons jouer un blind test. Alors qui est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi Vincent Lindon. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a été désigné président du jury pour le Festival de Cannes 2022. Elle avait fait l'impeccable La femme de mon frère il y a 3 ans. La réalisatrice québécoise Monia Chokri règle son compte au machisme avec un pamphlet contre la misogynie. C'est Babysitter.
Comment faites-vous pour choisir un film?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Préciser.
Un ingénieur de 42 ans a été suspendu.
Une femme sur 3 qui est victime d'agression sexuelle dans sa vie. Genre, à quel moment t'as senti que ton rapport aux femmes est devenu problématique?
Café?
Non.
Un misogyne.
La comédienne Monia Chokri a bien évolué depuis Les amours imaginaires de Xavier Dolan qu'il avait révélé au public français. Elle a depuis présenté en tant que réalisatrice à Cannes La femme de mon frère, jolie chronique familiale dans laquelle une sœur possessive et décalée malmenée Patrick Yvon. Patrick Yvon que l'on retrouve dans Babysitter ici, mais cette fois au sein d'un couple qui bat de l'aile. Monia Chokri interprète une jeune femme dépassée par sa nouvelle maternité dont le mari dérape un soir de beuverie et embrasse de force une célèbre présentatrice télé à l'antenne. Il va alors entreprendre une déconstruction plus ou moins volontaire et s'interroger sur cette misogynie intériorisée qui le hante et le contrôle. Son frère, journaliste woke et grand défenseur du droit des femmes, du moins c'est ce qu'il croit, lui souffle une idée de génie. Pourquoi ne pas écrire un livre pour coucher leur repentance à même le papier, s'excuser publiquement d'être des machos, éclamer leur amour des femmes et puis accessoirement aussi s'approprier sans vergogne le combat féministe. Mais alors comment faire pour s'occuper de son propre bébé lorsque l'on a un grand livre à écrire? Il ne reste plus qu'au père débordé à embaucher une babysitter, et celle qu'il va rencontrer va changer la vie de sa famille à tout jamais.
Ta face me dit quoi?
Ah, c'est parce que je vous ressemble à Brigitte Bardot.
Brigitte Bardot déguisée en nounou.
Amy, qu'est-ce que tu portes?
C'est un uniforme de bonne.
Pour le sexe.
Si Babysitter était sorti en 92, la jeune Nanny aurait sans doute été une vile manipulatrice dont le but était de séduire un innocent père de famille et de kidnapper son enfant. Mais heureusement, nous sommes en 2022 et la Babysitter s'avère être une sorcière bienveillante qui va non seulement réveiller la libido de la jeune mère de famille, lui offrir une sororité salvatrice, mais aussi mettre à mal les convictions masculinistes des hommes de la maison. Avec Babysitter, la réalisatrice québécoise délaisse la comédie sociale et fonce audacieusement vers le film de genre, un virage doublement assumé, déjà parce que cette histoire de misogynie est plus que teintée de fantastique et ensuite parce que son style a pris un tournant radical. En quête d'une vraie signature visuelle, elle travaille à outrance ses plans, ses décors, ses costumes. On alterne entre ambiance nocturne quasi horrifique et ambiance diurne toute pastel et hamiltonienne. Monia Chokri semble être devenue allergique au plan fixe. Elle nous propose dans ce deuxième film un travail permanent de lumière, de reflets, de mise en abîme. Une recherche d'originalité qui parfois devient quelque peu fatigante, surtout dans quelques scènes qui s'apparentent en fait à des orgies de plans serrés et de dialogues débités à toute vitesse.
Écris un livre?
C'est sur quoi?
Une lettre d'excuse à Chantal Tremblay.
Sexy Story, le titre de ton livre.
Cédric, écris un livre.
Ben oui,
Lettre d'excuse à nos mères,
oui.
À nos filles.
Oui.
À nos secrétaires, à nos maîtresses.
L'un des atouts du film, c'est l'écriture plus qu'intéressante de ce personnage de Nounou et la façon dont il est mis en scène, magnifiquement interprété également par Nadia Tereskiewicz, qui est, on peut le dire sans trop prendre de risques, la future star du cinéma français. On l'a vu notamment dans Seules les bêtes de Dominique Moll. Et contrairement à ce que l'on pourrait s'imaginer au vu d'une bande-annonce qui joue sur les ressorts sexistes du marketing, justement, eh bien le personnage de la Nounou qu'elle campe ici est bien plus clownesque que sexy, car sous couvert de comédie, eh bien le film a, pour ne rien gâcher, de vraies vertus pédagogiques. En suivant le chemin de croix vers la rédemption d'un homme machiste à son insu, ce sont finalement tous les spectateurs qui pourraient bien apprendre deux ou trois choses assez utiles sur le sexisme ordinaire.
Babysitter est en salle depuis le 4 mai. Une machination de l'État polonais au début des années 80, c'est Varsovie 83, une affaire d'État.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Voilà un film dont il vaut mieux connaître les ressorts dramatiques avant d'entrer dans la salle de cinéma. Varsovie 83, une affaire d'État, est le second long métrage de Jan Matuszynski. Et le titre ne fait aucun mystère de son sujet. Le réalisateur polonais s'intéresse à la sombre machination qui suivit la mort du lycéen Grzegorz Pszenik, fils de Barbara Sadowska, poétesse sympathisante de Solidarnosc et opposante au régime du général Jaruzelski, le dernier dirigeant de la Pologne communiste de 80 à 89. Pour ceux qui l'ont vu à la télévision, et j'en fais partie, cet homme avait donc ses lunettes fumées. En mai 1983, celui qui ne pense qu'à une chose, avoir son bac et partir à la mer, eh bien, est interpellé sur la voie publique avec un de ses amis, Jurek. Il est emmené au commissariat, frappé à mort devant son ami. Alors tous les pensaient que c'est une punition. Le traitement infligé par la milice citoyenne, soit la police dans ce régime, est tel que deux jours après, eh bien, le jeune homme meurt de ses blessures. Le légiste dira que c'est comme si un camion était passé deux fois sur son corps, glaçant. Cette affaire n'en reste pas là. Les sympathisants de Solidarnosc, en opposition donc avec le régime totalitaire à leur en place, tentent de médiatiser l'affaire qui est reprise par les rédactions étrangères. Quelques jours auparavant, la mère de la victime avait été attaquée par les forces de l'ordre qui lui avaient cassé un doigt et avaient menacé de s'en prendre à son fils. Mais donc, sous l'impulsion des services secrets du pays, l'État polonais va tout faire pour éviter un procès équitable et disculper la police, quitte à trouver d'autres responsables s'il n'y a pas le choix, pourvu que l'État ne soit pas mise en cause.
Sami żeście tego chłopaka stworzyli. To sami sobie teraz z tym radźcie.
Le film est adapté de l'ouvrage de Cesare Lazarevic, Leaves No Trace, soit Ne laissez pas de traces. L'ouvrage prend des libertés avec les faits et le film en fait autant avec le livre. Le réalisateur polonais ne fait pas dans les sbrouffes, il s'attache à la reconstitution en privilégiant les détails. Alors ce sont les décors, donc bienvenue en Pologne au début des années 80, mais ce sont aussi les mécanismes mis en place au sein de l'État pour saborder le procès. C'est d'abord la lutte dans les plus hautes sphères de l'État, entre les proches de Jaruzelski, qui parlera une fois dans le film. Ce sont les intimidations de la part de la police secrète pour faire plier les témoignages, faire pression pour étouffer la vérité, et c'est aussi ce qui joue dans les familles. L'ami de la victime est travaillé au corps par son père, qui est un communiste convaincu. Il est en ce sens un allié du pouvoir et joue contre la vérité. Et puis, c'est aussi la justice, avec de manière très étonnante l'émergence d'une justice qui pourrait être indépendante si l'État ne parvenait pas à changer les pions qui l'organisent, cette justice. Mais l'on voit que le procureur, donc général, tente de faire la leçon aux généraux. En résumant les choses ainsi, si vous aviez laissé enfermer quelques policiers idiots qu'on trouve partout, on n'en serait pas là. Voilà. Alors l'ensemble est évidemment glaçant, car plus le film avance, moins on sent que le procès peut prendre le chemin de la vérité et de l'équité. Et vu d'ici, vu de maintenant, la machination est grossière, mais à l'époque, eh bien, c'était la lutte. Il fallait choisir son camp et s'opposer à l'État. C'était un véritable engagement. Cela signifie que le témoignage de Jurek peut conduire à ruiner la vie de ses parents, parce que cet État-là se plaît à intimider et punir. Dans son souci de reconstitution et de dévoiler une machination, Varsovie 83, une affaire d'État, alors est un film long, qui souffre peut-être de quelques longueurs, mais qui reste captivant. On pourrait faire deux saisons d'une série noire, mais vraiment noire, qui pourrait permettre eh bien, de relativiser le jugement que nous entendions encore il y a peu à propos de la crise sanitaire d'un État français dictatorial. Varsovie 83, une affaire d'État, est en salle depuis le 4 mai. Parmi les réalisateurs thaïlandais, il y a Happy Japon Werzetakul, vainqueur à Cannes, mais aussi Jacques Raval, Neil Tamrong, dont le cinéma lui ressemble un peu. C'est Manu qui nous parle d'Anatomy of Time.
Il n'y aura aucune discussion à ce sujet.
This is Cinerama.
Vos paroles dépassent votre pensée.
Le titre anglais Anatomy of Time renvoie à cette idée que le temps serait une entité vivante, organique et mouvante, en dehors même de la perception que l'on en a, que l'on peut observer et ausculter au même titre que des organes. Une anatomie symbolisée à l'écran par les horloges qui envahissent la demeure de l'héroïne, Maëm, dont le père est évidemment horloger. Le mécanisme de la durée est mis à nu au cœur d'un film à la structure déroutante, anticonformiste, qui évoque la vie d'une femme à travers deux époques charnières, ou plutôt deux fragments de vie. Dans un premier mouvement, lorsqu'elle était une jeune femme courtisée par un militaire en pleine dictature, puis dans un deuxième mouvement, 50 ans plus tard, qui montre ce militaire, chef de l'armée, tombé en disgrâce, ne suscitant que mépris autour de lui. Mais Maëm continue de le soigner et se souvient de son passé. Le film opère des allers-retours entre passé et présent, brisant la linéarité d'un récit onduleux et opaque qui semble constamment se dérober pour mieux s'incarner ensuite. Très influencé par la culture bouddhiste, Jacques Rawal, Neil Tamrong s'est vaguement inspiré d'une histoire personnelle, familiale même, pour nous amener à une réflexion intime et universelle sur le temps et l'emprise qu'a celui-ci sur notre esprit et notre corps. Alors, en s'appuyant sur une histoire scindée en deux parties, sur un demi-siècle, il dessine un beau personnage, Maëm, aussi bien dans sa jeunesse qu'à la plénitude de la vieillesse. En évitant toute forme de démonstration, il essaie de représenter visuellement cette notion de temps aussi bien par une approche frontale, très physique, en filmant le corps de Maëm à deux époques bien distinctes, que par une réflexion existentielle quasi ontologique de la vie. Évidemment, l'ombre d'Happy Chatpong ou Erasatakul plane dès le prologue. Un très long plan fixe sur un homme allongé dans un lit pendant qu'une vieille femme le soigne. Alors on y ressent la même veine un peu, on va dire, cosmique, ce même désir de nous emmener dans un univers mystérieux où la nature est au cœur même des enjeux. Alors c'est bien par le frémissement des feuilles, l'eau de la rivière, les plans en contre-plongée sur les arbres que le cinéaste souhaite nous impliquer, nous faire ressentir aussi bien la sensation de la durée que l'importance des souvenirs. Maëm a vécu toute sa vie avec un homme qu'elle n'aimait pas et pourtant elle n'a cessé de s'en occuper. Cette dimension n'est jamais appuyée, à peine suggérée, elle résonne en contrepoint de ce que la vieille femme souhaite se souvenir, les regrets laissant place à la beauté du monde, même à une forme d'hédonisme dans les 5 dernières minutes, sorte de célébration du plaisir à l'approche de la mort. Alors la mise en scène est en osmose avec le récit, grâce en partie au talent de Futifong Harun Feng, le chef opérateur. La caméra flotte par de lents travelling, mais toujours d'une photographie chaleureuse et aux couleurs enveloppantes, marquée par la douceur, alors invitant le spectateur à se laisser aller, à se lever dans une histoire qui ne démarre jamais vraiment, mais qui est traversée par une multitude d'émotions. Alors des émotions qui vous imprègnent par l'extraordinaire travail sur le son. C'est certainement un truc assez récurrent dans le cinéma thaïlandais, du moins d'auteur, puisqu'on n'a pas, d'ailleurs, on a à nouveau, comme chez Happy Chatpong, quasiment pas de musique, voire pas du tout. La réflexion philosophique parfois ardue sur l'existence et la décrépitude est moins intellectuelle que sensitive, dérivant vers une œuvre finalement apaisante et panthéiste sur le pardon. Ne retenir du passé que le meilleur, ne pas s'encombrer de l'inutile. La douceur hypnotique de la forme traduit le parcours intérieur de Maëm, sa trajectoire définie en deux grandes étapes. Alors le voyage dans le temps se mérite, il faut en apprécier ses lenteurs, son rythme engourdi et sa narration inhabituelle. Moins abscons quand même que le cinéma d'Happy Chatpong ou Erasatakul, celui de Jacques Rawal Nitamrong n'est pas affranchi du récit. Il est aussi plus ancré dans le réel, en l'occurrence il fait écho à la dictature militaire de 63 à 73 dirigée par Thanom Kittikachorn, mais un réel teinté de mysticisme où tout n'est que signe. Alors présenté à Venise en 2021, ce deuxième long métrage après Vanishing Point d'un jeune cinéaste confirme donc la singularité et la vitalité du cinéma thaïlandais d'auteur, assez éloigné de nos préoccupations, la méditation allégorique et poétique sur la mémoire d'une femme, d'une beauté plastique souvent impressionnante.
Anatomy of Time est en salle depuis le 4 mai. Il a été désigné président du jury pour l'édition Cannes 2022. C'est Vincent Lindon et ça nous donne l'occasion de jouer un blind test avec sa filmographie.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague ?
Interview, chronique, blind test
et tout le reste.
Merci.
Alors Guillaume, est-ce que tu te sens fort en film de Vincent Lindon?
Ben, ça dépend, parce qu'il a une très longue carrière, il a œuvré dans pas mal de genres, alors ils sont un peu spécialisés dans ce qu'on appelle la vindonsploitation, là, les films avec Stéphane Brisé, hein, les films sociaux où ils jouent un patron ou un employé, mais je sais pas, parce que du coup, voilà, c'est tellement éclectique que...
C'est vrai que c'est éclectique, et on va s'en apercevoir, parce qu'autant il a fait 5 films avec Stéphane Brisé, et ça c'est pas des comédies, mais il a fait un certain nombre de comédies. Allez, 5 extraits, il faut deviner les titres, premier extrait.
Qu'est-ce que vous faites là?
Je vous tire. J'ai pas grand-chose à ranger, de toute façon. Trouvez quelqu'un d'autre.
Bon, que ça soit bien clair. Moi, c'est vous que je veux.
Vous voyez, c'est peut-être le poste de ma vie, mais c'est pas ce dont je rêvais. Moi aussi, je rêvais de quelqu'un de fort, de solide. Quelqu'un capable de supporter de l'urticaire, des mélanomes, une remplaçante, putain, merde !
Hé, vous me parlez sur un autre ton, Carlotta. Hein ? Vous avez 10 ans moins que moi. Vous arrivez dans le service où tout roule. Vous n'avez plus qu'à suivre le chemin. Moi, ça m'a pris 20 ans de faire ça. Alors, c'est pas une chose comme vous qui va me prendre. C'est pas une chose comme vous. Qui va me donner des leçons.
Alors, ça n'a pas été trouvé. Alors bon, il donne la réplique à Emmanuel DeVos, qu'on entend. Alors, il s'agit d'une amitié hors norme entre David, qui a 50 ans, qui est professeur en dermatologie, et puis Romain, qui a 13 ans. Et c'est un jeune qu'il suit depuis son plus jeune âge. Et le problème est que ce médecin veut rejoindre l'OMS en Suisse et ne sait pas comment l'annoncer à son jeune patient. C'est La permission de minuit.
Non, je ne l'avais pas vu.
Oui. Film de Delphine Glaise, sorti en 2011, 132 000 entrées en France seulement. Deuxième extrait de ce blind test consacré à Vincent Lindon.
Est-ce que vous avez envisagé la vente peut-être de l'appartement pour rembourser le capital restant dû que vous avez aujourd'hui et puis récupérer surtout un pécule qui vous permettra de constituer une épargne de précaution?
Oui, mais c'est non.
C'est non? Et pour quelle raison?
On en a parlé avec ma femme.
Oui.
D'abord, il ne reste plus qu'à peu près 5 ans
de remboursement.
Oui. De remboursement. Et alors là, ça serait comme si tout ce qu'on avait fait, c'était... Ça n'avait servi à rien.
Alors, ça a été trouvé.
C'est La loi du marché, de Stéphane Brisé.
Oui, film de 2015, à 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau travail qui le met bientôt face à un dilemme moral. Est-ce que pour garder son emploi, il peut tout accepter comme fliquer les autres salariés pour les faire virer? César du meilleur acteur 2016, mais plus important, je dirais, prix d'interprétation masculine en 2015 à Cannes. Et c'est peut-être ce qui lui vaut d'être président du jury pour cette édition.
Alors ça, je pense, c'est aussi la Palme d'Or de Titane. L'année dernière.
964 000 entrées en France pour La loi du marché. Troisième extrait de ce blind test.
Tu m'as demandé d'être mon chauffeur. Enfin, c'est toi qui... Enfin, toi, moi, on s'en fout. Donc, mon chauffeur ne monte jamais ici. De même que mes collaborateurs ne descendent jamais au sous-sol. Il y a des étages, il y a une sorte d'organigramme, de structure, enfin, appelle ça comme tu voudras. Sinon, c'est le bordel. Alors, je suis conscient que tu veux t'impliquer... que tu veux m'aider, est-ce que tu peux juste y mettre un minimum de bonne volonté?
Mais...
C'est possible?
Mais c'est précisément pour ça que je suis monté, Pierrot. J'ai bien réfléchi. Je peux pas être ton chauffeur. Parce que si je suis ton chauffeur, par voie de conséquence, je suis en bas. Et si je suis en bas, je travaille pas avec toi puisque t'es en haut.
Oui, entrez.
Alors c'est trouvé, d'autant que tu l'avais chroniqué.
C'est mon cousin.
Oui, un film de Yann Kounen sorti en 2020 avec Vincent Lindon et François Damiens, ce qu'on entend. Pierre dirige d'une poigne de fer une grande entreprise familiale, ne vivant que pour elle et même laissant sa femme et ses enfants au second plan. Mais débarque son cousin Adrien qui détient 18% du capital, un homme fragile et excessif qui admire Pierre. Alors il décide de s'impliquer dans la vie de la société, faisant souffler un vent de folie et remettant en cause les plans prévus par Pierre. 356 000 entrées en France pour ce film.
Ça n'a pas relancé vraiment la carrière de Yann Kounen, hein?
Non. Est-ce si grave, j'en suis pas très certain. Quatrième extrait de ce blind test.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte, au juste?
Votre itinéraire. Comment réussir à s'évader cette fois de prison?
Faut juste avoir les couilles de le faire, hein. Un peu de chance. Y a pas une prison au monde où personne n'a réussi à se faire la malle. Pas une. Chaque tôle a sa clé. Il suffit de la trouver, ça va prendre des jours ou des années, ça dépend.
Comment ils vous ont pris, par exemple?
Ils m'ont pas pris, moi. Je me suis rendu. C'est pas pareil. Vous savez, s'évader, c'est une chose. Le plus dur, c'est de rester libre. La plupart des mecs se font coincer dans les jours qui suivent.
Pourquoi ça?
Parce que c'est des cons, tiens. Première chose qu'ils font après s'être arrachés, c'est d'aller retrouver leur famille, leurs potes ou leurs gonzesses. Et là, ils se font cueillir direct. Non, faut être capable de couper avec tout ce qu'on a de plus cher. Sa famille, sa femme, ses enfants. Si on n'a pas prévu la suite, c'est pas la peine de s'évader. Hein. Il faut être méthodique, organisé.
Alors là, Vincent Lindon est plutôt attentif. Il a peu de dialogue, mais c'est trouvé.
C'est pour elle, de Fred Cavallé.
Oui, film de 2008. Lisa et Julien sont mariés et mènent une vie heureuse et sans histoire avec leur fils Oscar. Mais leur vie bascule quand, un matin, eh bien, la police vient arrêter Lisa pour meurtre. Et ce n'est pas rien, elle est condamnée à 20 ans de prison. Et persuadée de l'innocence de sa femme, eh bien, Julien décide de la faire évader. Un remake américain signé Paul Haggis, intitulé Les trois prochains jours, est sorti en 2010.
Et je dois avouer que c'est beaucoup moins bien. Il y a une fraîcheur, une spontanéité. Je pense que c'est dû au fait que c'est un premier film. Mmh. Et Cavallé, il a tout mis dedans. Il veut faire un polar. Il a deux acteurs majeurs quand même. Hein. Et je pense que c'est ce qui donne le sel, quoi. Mmh.
670 000 entrées en France, ça veut dire que les spectateurs ont plutôt suivi. Dernier extrait de ce blind test consacré à Vincent Lindon.
Alors, espèce de connard, faut faire attention, non ? Mais où tu te crois, connard ? Tu sais conduire ou quoi, pauvre con ?
Pardon, monsieur, je suis désolé.
Connard !
J'étais en train de discuter.
Mais tu te crois où, pauvre con ?
J'ai un tout petit peu touché votre rétroviseur.
Connard !
Je crois que là, ça va. Il a rien, le rétroviseur.
Tu sais conduire ou quoi, pauvre con ?
Vraiment, je vous demande pardon. Je vous prie de m'excuser.
Connard ! C'est terrible ce qui vous est arrivé !
De quoi ?
Je dis, c'est terrible ce qui vous est arrivé !
Espèce de connard.
Sur la Terre, il y a 4 mecs sur 5 qui crèvent de faim. Il y a ceux qui vivent dans les caves à cause des bombes. Il y a ceux qui pourrissent du cancer et du sida dans les hôpitaux. Il y a celles qui se font violer par 25 mecs en même temps pour bien leur faire comprendre c'est qui le patron. Et il y a toi. Et toi, il t'est arrivé une chose terrible. On a touché à ton rétroviseur.
Mais monsieur, calmez-vous, monsieur.
Il y a les arbres au-dessus de toi, avec les feuilles qui bougent dans le vent. Tu les as déjà regardés, les arbres. Il y a ta femme qui est belle et qui perd sa jeunesse à cuisiner des champignons à la crème pendant que tu la coquefies. Tu l'as regardée une seule fois, ta femme.
Trouver est facile, presque, j'ai presque envie de dire.
Oui, c'est la célèbre scène du rétroviseur de La Belle Verte de Colin Serrault.
Oui, film sorti en 96, cela fait 200 ans hein, qu'aucun extraterrestre n'avait visité notre déconcertante planète, jusqu'à ce que l'une d'entre elles se porte volontaire, et d'ailleurs elle est interprétée par Colin Serrault, et celle-ci déchante vite, 776 000 entrées en France, un rôle devenu célèbre, voilà.
On remarque que Vincent Lindon, au final, il sait se faire hein, une certaine fidélité hein, dans son cahier d'adresse. Hein, parce que plusieurs fois Colin Serrault, plusieurs fois Stéphane Brisé, c'est un homme de confiance apparemment.
Ainsi se referme ce blind test consacré donc à Vincent Lindon, président du jury à Cannes 2022. Une nouvelle vie d'institutrice pour Anna Girardot dans un village du Morvan où un enfant a disparu et une bête sauvage s'attaque au bétail. C'est Ogre de Arnaud Malherbe.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama, c'est un passe-temps surprenant.
Si vous saviez ce qu'on est heureux de vous voir.
Ravi d'être là. Il s'appelle Jules et il a 8 ans.
Pour son premier film de cinéma, Arnaud Malherbe s'attaque au genre du conte fantastique et décide d'y aller franco, avec un titre qui annonce clairement la couleur. Ogre met donc en scène une institutrice qui s'installe dans la France profonde, au cœur de la campagne du Morvan, avec son fils pour redémarrer une vie brisée par, ben on le comprend hein, par son absence, hein, un compagnon épère qui fut plus une source de terreur que de bonheur. Alors si l'installation se fait sans trop gros problèmes hein, pour la jeune femme, vu que le poste à pouvoir était très attendu dans celui reculé et abandonné des préoccupations des citadins, ben elle procure un peu plus de soucis au fiston qui est atteint de surdité. Alors déjà qu'il n'est jamais facile hein, d'être accepté quand on est un enfant, et encore plus quand on est un étranger au-dessus d'une communauté, bah, il est également montré du doigt par ses cruels semblables parce qu'il a ce handicap. Le petit garçon a quand même un pouvoir bien pratique face au colibé, et bien celui d'éteindre sa prothèse auditive pour fuir les dents d'oiseaux et s'évader dans son imaginaire. Alors ça tombe bien, parce que des oiseaux, il va y en avoir beaucoup dans Ogre, ils vont le fasciner jusqu'au point de devenir un élément important face à l'adversité, et que d'imaginaire, bah, il va à la fois en falloir dans ce lieu vivant mais austère, mais aussi prouver qu'il n'en est pas victime. Eh, car oui, car comme le titre l'a vendu, quelque chose rôde dans la forêt, tue les bêtes et enlève les enfants, et le petit Jules va devoir faire comprendre à sa mère que ce qu'il voit parfois à travers sa fenêtre ou même dans l'obscurité de sa chambre n'est pas une invention de l'esprit.
Voilà votre petit nid.
Il n'était pas gentil.
Mais toi, pourquoi t'es ici ?
Parce que j'ai estimé qu'on avait le droit à une seconde chance. Allez, couche-toi.
Ce résumé pourrait nous enthousiasmer s'il ne ressemblait pas à beaucoup de films du même genre et surtout si le film arrivait à aller jusqu'au bout de ce qu'il promettait. Alors on pourra rétorquer, et à raison, que le premier point est commun à beaucoup de films du genre, mais quand même. Et en ce qui concerne la relation enfant-monstre pour gérer un traumatisme, si vous n'avez pas en tête le récent Quelques minutes après minuit de Juan Antonio Bayona, vous aurez sûrement l'encore plus récent, l'année dernière, Affamé de Scott Cooper, en ce qui concerne une métaphore qui devient un argument horrifique impliquant des enfants face à une bête. Alors, de toute façon, le motif de l'enfant qui voit des choses, qui n'est pas compris par les adultes et qui doit se battre seul contre lui pour triompher est un classique du genre, à tel point que pour beaucoup, tout se joue majoritairement dans la mise en scène plus que dans la véritable écriture. Alors le film a pour lui d'avoir de très beaux plans, mais qui ne s'agencent pas forcément de la meilleure des manières. Il y a de gros problèmes de rythme, avec pour effet de s'attarder lourdement sur des choses très facilement acquises par le spectateur, tandis que d'autres moments méritant plus de développement, c'est-à-dire une dilatation du temps car il y a du suspense à exploiter, passent beaucoup plus trop vite, comme si le réalisateur n'avait pas envie d'aller frontalement dans le registre du film de monstres que le genre du conte fantastique évoque forcément. Ce problème montre clairement la différence entre belles images et mise en scène de cinéma, où tous les plans, plus être beaux ou d'avoir une empreinte esthétique propre et forte, doivent se suivre et se compléter et non se suffire à eux-mêmes. Cette volonté d'esquiver le monstre et l'aspect frontalement fantastique est aussi gênant parce qu'il ne sert aucun parti pris fort. Quitte à vouloir minimiser cet aspect, autant aller taper dans les productions de Val Newton qui ont su faire école avec le hors-champ, comme dans les films de Jacques Tourneur, et en particulier le célébrissime La Féline. Dans ce dernier, sans que rien ne nous soit montré, il nous est quand même possible d'avoir une immense satisfaction grâce à un suspense savamment entretenu et une esthétique qui sert à expliquer et à développer la métaphore profonde du film.
C'était ton copain ?
Ils ont cherché partout. On n'a pas le droit d'en parler.
Quand le village s'enfonce dans la nuit, il grandit.
Vous trouvez ça normal ? Faites rien !
On a déjà perdu 8 veaux. C'est une sorte de chien sauvage qui fait n'importe quoi.
C'est d'autant plus dommage que Ogre sombre dans les pires travers du cinéma fantastique à la française qui semblait désormais loin de nous, après des années de flottement et d'errance. Rien que pour 2021, on avait pu compter sur les admirables Messe Basse de Baptiste Drapeau, Méandre de Mathieu Turi ou encore Oxygène d'Alexandre Aja, au budget parfois encore plus limité que Ogre, et pourtant bourré d'idées, d'effets et de qualités qui leur permettaient d'amener leur histoire jusqu'au bout. Malheureusement, on retrouve les tares que l'on pensait à mineurs dans ces productions hexagonales plus convaincantes, comme les plus récent Teddy ou La Nuée, essayant de cacher comme elles le peuvent la vacuité de ce qu'elles racontent derrière un pitch vaguement accrocheur. Donc on aurait sincèrement aimé plus de rigueur d'écriture, évitant les poncifs, les incohérences et surtout, les pistes de réflexion très intéressantes qui seront toutes abandonnées, voire carrément volontairement mises sous silence, alors qu'il y avait là le cœur même du drame au sein du film. Il surnage néanmoins une Anna Girardot qui tient la dragée haute, et de loin au reste du casting bien moins convaincant, et un travail sur le son, vu qu'on est quasiment tout le temps les méandres de l'esprit d'un enfant, sourd et pris au piège dans une forêt extrêmement menaçante. C'est déjà ça.
Ça a l'air gentil, non ? Là, pourtant, il y a un monstre, mais...
Moi, je sais qui a fait ça.
On est en train de retomber dans l'obscurité.
Une forêt du Morvan, donc, un film qui est en salle depuis le 20 avril. C'était un rattrapage dans Cinérama.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison ?
Eh bien, voilà. On s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre.
Comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
On se retrouve la semaine prochaine et tu auras deux films, Guillaume.
Oui, j'aurai The Northman et j'aurai le retour de Sam Raimi après 10 ans d'absence, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
Et nos collègues auront Les Femmes du Pavillon et Utama la semaine prochaine.
Maman, tu sais pas ce qui m'arrive. Toi, Marie m'a quitté, je suis complètement déprimé, je comprends absolument pas ce qui s'est passé. Et en plus, j'ai perdu mon boulot le même jour, tu te rends compte ?
Victor, ta mère a un amant.
Hein ?
Et elle a décidé de me quitter pour partir avec lui.
Hein ?
À 50 ans, elle se barre avec un mec de 10 ans plus jeune qu'elle.
Voilà.
Et papa reste tout seul.
C'est qui ?
Monsieur Borin.
Monsieur Borin ?
Marié, 2 enfants.
Monsieur Borin, celui-là, là ? Oh la vache, le fumier, tu
Je te le fais pas dire.
Maman, t'es complètement dingue ou quoi? Et où tu vas aller? Et papa et moi? J'ai des problèmes, moi. Marie m'a quitté, j'ai perdu mon boulot, je suis complètement...
Alors écoute, Victor, tu arrêtes. Tu arrêtes tout de suite. Tu te tais et tu m'écoutes, d'accord? Alors écoute bien. Tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40. Tu m'entends? Je m'en fous. Mais alors je m'en fous. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien, rien, rien à foutre.
Mais merde, c'est pas croyable! Ma propre mère se fout de mes problèmes.
Je te dirai encore mieux. Non seulement je me fous de tes problèmes, mais je me fous également des problèmes de ta sœur. Je m'en fous totalement. Attends, il y a encore plus rigolo. Je me fous royalement des problèmes de ton père.
This
mais je rêve.
Is Cinerama. 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 Cinerama.